Nous, on prend
Aviez...
des questions. Je vois qu'il y a Emile qui lève le doigt. Bah, vas-y, Emile, si tu veux, oui.
Oui, permets-moi, en ton nom et au nom du groupe, de dire à notre ami Georges Elia, Hanouka Sameach et Rosh Chodesh Tov. Je lui souhaite une bonne fête de Hanouka et un bon mois, puisque nous commençons le nouveau mois hébraïque ce soir.
Merci
Merci beaucoup.
beaucoup.
Merci beaucoup de votre conférence très passionnante, je découvre. Merci à M. Tariq. C'est la première fois que j'écoute une traduction, une interprétation de la Bible, en particulier pour ce verset sur le sacrifice d'Israël. Je suis très impressionné. Merci au prêtre Éric Morin de nous avoir donné aussi sa
Enchanté.
vision. Merci beaucoup.
Enchanté. Alors, puisque Georges Elia, effectivement, on a démarré les fêtes d'Hanouka, j'ai une petite question moi, pour toi, enfin, ou une prolongation de ton propos, si c'est possible. Tu as évoqué très rapidement le fait que les trois personnages représentaient trois vertus différentes, charité, justice
Vérité.
et vérité 16, en fait, des trois. Est-ce que tu peux développer un peu ce point-là parce que ça ne me paraît pas forcément évident comme cette notion-là. Et le père Éric, sur la partie paternité que tu évoquais à la fin, cette idée de Dieu qui ne serait pas la bonne idée de Dieu, enfin, de se décaler de l'image de Dieu qu'on a. Que tu peux redévelopper ça. Tu as commencé à développer quelque chose sur la paternité qui est sacrifiée. Alors, est-ce que c'est une mauvaise paternité? Est-ce que c'est une. Voilà, cet élément-là. Et puis, Tariq, j'ai à avoir des questions pour toi, mais j'attends un peu que Georges Elia et Père Eric aient commencé à développer, puis que les auditeurs aient développé aussi.
Oui, merci volontiers. Je vais essayer d'expliciter les choses. Alors, justement, ce qui m'a beaucoup intéressé dans les exposés respectifs du Père Morin et de Tariq Abounour, c'est effectivement la façon dont les trois traditions prennent en charge des niveaux d'analyse du texte, alors, niveau exégétique, niveau herméneutique. Je n'ai pas été explicite pour ma part, mais dans la tradition rabbinique, il y a effectivement quatre niveaux d'interprétation qui se ramènent, et c'est pour répondre à la question que vous m'avez posée sur les valeurs, qui se ramènent à l'acronyme Pardès, le paradis. Alors, comme on sait, c'est un mot d'origine perse. Alors, le père désigne le pshat, le niveau littéral. Le R désigne le remez qui est le sens allusif pardon. Le dalet désigne le drash, ce qu'on retrouve dans le midrash, c'est le sens allégorique. Et le S, le samer, le sod désigne le sens mystique, le sens sotériologique, le secret en hébreu. Alors, s'agissant effectivement de cette façon de faire coïncider à chaque patriarche une valeur caractéristique, on a là d'une certaine manière une sorte de raccourci par rapport à ces quatre niveaux. Le pshat consiste effectivement, je pense que tout le monde a été dans un premier temps en ce sens, à évoquer les événements dans leur factualité, la littéralité des faits tels qu'ils nous sont rapportés par le narratif. Ça c'est le pshat. Ensuite, la sollicitation du texte fait apparaître effectivement une dimension allusive qui tente à répondre à la question à quoi ça peut bien nous faire penser, à quoi tout cela mène. La dimension proprement allégorique, le drash, consiste à voir dans ces personnages des archétypes qui nous donnent à penser, au-delà, comme je le disais tout à l'heure, de l'historicité même des événements. Et Éric Morin a fort bien fait de rappeler que ce sont en effet des récits étiologiques qui ils doivent comporter, s'appuyer sur des strates mémorielles et des traditions populaires considérables, dont le texte biblique, d'une certaine manière, fait la synthèse avec des contradictions qui lui sont inhérentes, mais que la tradition arrive à éclaircir, et en particulier par le recours à la loi orale, ou tout simplement par la multiplication des approches textuelle, rédactionnelle, complémentaire, sémiotique, narrative, etc. Et puis, le niveau du sot, c'est-à-dire au fond, quel est l'enseignement ultime de tout cela? Eh bien, on le trouve dans dans le parachèvement de cette coïncidence entre les noms Abraham, Isaac, Jacob, et puis Chesed, Din et Emet. Alors, le parachèvement de la qualification de ces trois figures, c'est un apport de la tradition kabbalistique. Et on a l'idée que finalement, et on retrouve ça d'ailleurs aussi bien dans la fête, dans les fêtes de Hanouka, ou dans les fêtes de Pourim ou à d'autres moments, et même de façon, je dirais, quotidienne, que chaque jour, par exemple, chaque jour de la semaine, va coïncider avec une figure biblique importante. Alors, quand on commence par à considérer ce qu'on appelle dans la mystique l'arbre séphirotique qui comporte 10 attributs, on voit ainsi se dérouler une consécution de personnages. Et Abraham, Isaac et Jacob appartiennent finalement au centre de l'arbre séphirotique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui leur vaut en effet cette identification à une valeur de tête en quelque sorte, va se déduire de ce qui est dit de chacun de ces personnages dans le narratif biblique, mais aussi va être incitatif par rapport à la conduite morale dont il a été question dans les différents niveaux d'interprétation, aussi bien christianisme qu'islam. Et en fait, comment comprendre cette notion? J'ai indiqué que l'ultime épreuve parmi les 10 que connaissait Abraham, c'est effectivement celle de la ligature d'Yitzhak, et qu'il était éprouvé non pas sur la vertu de Chesed, mais sur la vertu de Din, c'est-à-dire sur la vertu de rigueur qui coïncide avec ce que représente Isaac lui-même, qui est effectivement l'objet, entre guillemets, du sacrifice. Et en ce qui concerne la façon dont on passe de la vertu de charité qui est en quelque sorte largement illustré par la conduite existentielle d'Abraham jusqu'au moment où il est mis à l'épreuve sur une vertu qui ne le qualifie pas en première personne, en quelque sorte, mais de manière un peu secondaire, ça nous permet de faire apparaître une chose, c'est qu'on est effectivement dans une dynamique des engendrements. C'est-à-dire que les patriarches sont fils l'un de l'autre, mais en même temps, ils ne se ressemblent pas. Ils ne se ressemblent pas parce qu'ils représentent chacun une modalité de l'être humain, une modalité d'être humain au sens verbal, une modalité de la manière d'être humain. L'un est pleinement l'incarnation du chesed, l'autre est pleinement l'incarnation de la rigueur, c'est-à-dire du rapport à la loi aussi, et le troisième, en tant qu'il résulte de cette première filiation, eh bien, va représenter la synthèse des deux premiers. Ici, Emmet ne doit pas s'entendre au sens d'une vérité, comment dirais-je, référentielle, mais d'une vérité morale. Le Emmet, dans cette idée, dans cette perspective, c'est la synthèse des valeurs. Le Emmet que représente Jacob, bar Israël, parce que vous connaissez le récit éthiologique qui nous rapporte le combat avec l'ange, au terme duquel il y a un changement d'identité, ce qu'on appelle en hébreu un Shinui Hashem, et qui détermine d'une certaine manière une autre destinée. Ce moment-là est décisif parce qu'il marque un tournant dans l'histoire des engendrements, et là commence pour la tradition rabbinique l'histoire d'Israël, avec Jacob Israël en fait. Mais préalablement, on est encore dans une perspective, je dirais, très ample, où l'humanité est saisie à vif dans sa capacité à discerner le Dieu un. Et c'est ça que représentent d'abord Abraham et Isaac, le Dieu un. Avec y compris ses contradictions, le Dieu qui engage à l'amour du prochain et le Dieu qui met à l'épreuve sur la possibilité d'un sacrifice ultime. Comme on l'a vu dans les trois traditions, ce sacrifice est empêché, il n'est pas seulement évité, mais il est empêché, et cela va donner naissance effectivement à tout ce que mes deux amis ont amplifié dans leur propre tradition, la possibilité d'une orientation spirituelle de l'humanité. Et c'est ça que représente le Emmet, en fait, dans la perspective kabbalistique. On a trois degrés d'évolution spirituelle: la charité, le rapport à la stricte justice et le rapport à la vérité en tant qu'elle synthétise le lien à la charité et le lien à la rigueur. Et ça, c'est une caractéristique du judaïsme. Il y a un texte très intéressant de Maïmonide, 12e siècle, qui dit que cette consécution des patriarches avec la consécution des valeurs, charité, stricte justice et synthèse des valeurs, rend compte également de l'accent qui est mis par les différentes traditions monothéistes. La charité aurait été amplifiée par la tradition chrétienne, le rapport au dîn aurait été amplifié par la tradition musulmane, et le rapport aux deux aurait été incarné par la tradition hébraïque et rabbinique. C'est-à-dire que dans le judaïsme, on a une sorte de synthèse entre le chesed et le dîn. Voilà le sens de cette consécution dans le narratif biblique avec son interprétation ésotérique.
Juste pour bien comprendre ce que tu dis, sur le sacrifice étant péché, c'est ça qui permet l'émergence du spirituel, parce qu'on sort...
Exactement, c'est ce qu'a très bien explicité aussi Eric et Tariq à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, on a d'abord dans l'attitude désintéressée, dans la soumission complète à Dieu, on a une attitude qui consiste à l'évidence à renoncer à se faire violence. Puisque effectivement le fils auquel est promis, qui est censé être le vecteur par lequel passera cette immense descendance, est voué au sacrifice. C'est un paradoxe formidable, c'est un drame métaphysique. Et en même temps, le fait que le sacrifice soit empêché fait apparaître plus généralement le principe d'un surmontement de la violence. Et le sacrifice est déplacé sur un corps non humain, sur un animal, ce que conserve la tradition musulmane. Bon, dans le judaïsme, il n'y a plus de sacrifice depuis la destruction du temple où se passaient les sacrifices. Le temple de Jérusalem, effectivement, comme ça a été rappelé, qui a été édifié à l'endroit présumé du mont Moria. Mais en fait, dans tous les cas, la suspension du sacrifice, c'est l'orientation vers un autre devenir humain, vers la possibilité d'un autre devenir humain qui ouvre la voie à la spiritualisation. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans ce qui a été dit de la part d'Éric et de Tariq, c'est le fait qu'on a une élévation à partir de ce moment-là et une orientation doctrinale dans les trois cas qui va être à l'origine de trois directions spirituelles qui sont de nature effectivement à permettre à l'être humain de parfaire une éducation qui ne soit pas seulement une éducation pour le monde, mais une éducation dans le rapport à l'absolu. Et dans la tradition hébraïque rabbinique, on appelle ça le moussar, c'est la tradition de la discipline spirituelle. Mais toutes les traditions ont les leurs. Voilà ce qu'on peut dire.
Merci, Georges. J'ai vu Florence, ta main levée. Je laisse Eric répondre à ma question initiale et puis je te donne la parole après. Ça va, Eric? Ton micro est coupé, Eric.
Donc la question que tu me posais concerne donc la question de l'idolâtrie, en fait, qui, je crois, est la question centrale de toute la Bible. Comment accueillir Dieu tel qu'il est et non pas tel que je l'imagine. Et une lecture un peu précise du décalogue permet de découvrir que finalement il n'y a qu'un seul commandement: c'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir de l'esclavage d'Égypte, et que tous les autres commandements sont la réplique de cette seule parole. Dieu se présente à son peuple pour faire alliance. Et il ne veut pas que son peuple ait d'autres dieux que lui. Et le deuxième commandement va être de ne pas faire d'image. Et tel que Dieu m'a fait, avec mes petites coordonnées spatio-temporelles au fond de ma petite tête, je ne peux pas ne pas me faire d'image. Quand je conçois quelque chose, tout de suite, je l'imagine. Les mots sont parlants, bien sûr. Et donc le problème, ce n'est pas tant d'avoir ou pas une image de Dieu, mais c'est de ne pas enfermer Dieu dans l'image qu'on se fait de lui. Pour prendre un exemple qui va être parlant, même quand je dis que Dieu est Père, à la suite de Jésus, ce qui est plutôt pour moi un bon conseil et un bon guide, même quand je dis cela, je peux plaquer sur Dieu les images que j'ai de paternité, qui peuvent être ce qu'elles sont, point. Et Dieu n'est pas Père à la mesure dont je le pense ou dont j'ai pu l'expérimenter comme fils déjà, au moins. Et donc la puissance du récit biblique, de la première à la dernière lettre, c'est d'être capable de déconstruire nos images. Et je pense qu'il y a dans l'ensemble de la réflexion biblique sur elle-même, notamment dans les écrits de sagesse, une réflexion sur la puissance de la lettre, capable de mettre à plat nos images et ouvrant la possibilité à ce que Dieu se révèle tel qu'il est. Alors, jamais de façon absolue, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir, donc nul ne peut faire l'expérience de Dieu sans exploser en vol, dans sa plénitude. Et donc, c'est un chemin. Et Abraham, dans ce récit, nous montre que le chemin demande du courage, demande d'affronter les ambiguïtés, demande de ne pas faire demi-tour. Dans ce que je dis là sur la lettre, il y a dans ma réflexion une phrase que vous connaissez tous de saint Paul, « La lettre tue, l'esprit vivifie ». Et j'en fais en général une lecture positive, c'est-à-dire il faut que la lettre ait incisé, circoncis, pour reprendre un terme biblique, il faut que la lettre ait fait ait déployé cette puissance d'incision pour que l'esprit puisse vivifier, c'est pour que Dieu puisse se manifester un peu plus tel qu'il est. Voilà. Et donc la question, c'est de ne pas enfermer Dieu dans l'image que je me faisais de lui hier, et d'accepter qu'il soit demain autre que ce que je crois aujourd'hui. Et finalement, sur cette question de la paternité, c'est qu'une question, dans cette histoire, Abraham n'est pas le même père au début et à la fin. Voilà. Mais il se laisse déplacer.
Dieu dans le sens de ce qui donne plus de vie.
Oui, le plus est une façon simple et facile de s'en sortir. Il la donne autrement.
Ouais. Florence, merci Eric. Ton micro est coupé, Florence, je crois.
Oui, je viens de le rétablir. Merci, messieurs les docteurs et mon père. Je voudrais poser une question tout d'abord à monsieur Tariq ou au docteur Tariq Abounour. Alors, je suis désolée, vous attendiez au travers de nos réponses, peut-être deviez nous révéler quelques subtilités, mais je vais vous poser des questions extrêmement terre à terre. J'avoue que parfois j'étais un peu perdue parce que je ne suis pas coutumière de ce type, je ne veux pas dire de narratif, de témoignage ou d'analyse. Il se trouve que le titre de notre session, c'est Religion, laïcité et enjeux contemporains. Moi, je suis parlementaire, on s'attaque à un texte pas évident dans les prochaines semaines. Et j'aurais souhaité éventuellement que vous acceptiez de faire l'exercice très rapidement de transposer les messages qui émanent des faits dont vous avez parlé, des faits ou pas des faits d'ailleurs, mais en tout cas de ce dont vous avez parlé, et de les traduire en mots d'aujourd'hui et comment ils pourraient être appliqués sous le prisme de vos trois religions.
Alors, merci Madame pour votre remarque ou votre question. Déjà avant d'attaquer la réponse, j'aimerais juste insister sur les valeurs qui nous réunissent, hein, au-delà même des trois religions du livre. Et donc, l'aspect ésotérique est très présent dans le récit que nous venons d'étudier ensemble. Et s'il y a un aspect ésotérique, un aspect spirituel qu'il faudrait retenir, c'est la fameuse sagesse mystique musulmane, mourir avant de mourir. On ne parle pas ici de la mort physique, puisque dans ce récit, vous remarquerez qu'il n'y a pas eu de mort physique, finalement. Hein. Personne n'est, tout le monde est sorti indemne. Cette mort dont il est question ici, et cette extinction d'Abraham, il a eu vraiment ce qu'on appelle fana, c'est-à-dire l'extinction par rapport à ses appétits, par rapport à son ego, par rapport à ses attaches, et une autre vie, puisqu'il a été éteint en Dieu, il a vécu en Dieu une autre vie, et il fut l'élu Oumma, annoncé par le Coran et annoncé également par les textes antérieurs. Il a était dans cette élection, ou il a mérité cette élection parce qu'il a pu justement dépasser son enveloppe charnelle dans cette soumission confiante à Dieu, ce qu'on appelle Tawakkul. Donc, au niveau ésotérique, il y a évidemment un sens profond de ce récit pour lequel, évidemment, je pense qu'on ne peut qu'être d'accord tous les trois, qui est ce sens de la mort avant la mort, de pouvoir être dans ce paradis de la gnose qu'on appelle Jannat Zakharif, le paradis de la gnose, avant d'imaginer un paradis physique, hein, qui est très important aussi, mais bon, parce que les fidèles des trois religions attendent aussi un paradis physique. Mais des personnes, entre guillemets, dans le mysticisme, dans l'ésotérisme, attendent surtout un paradis de la gnose qu'ils peuvent goûter, ce qu'on appelle la sens gustative, qu'ils peuvent goûter ici, dans ce bas monde, si et seulement si ils sont détachés, justement, de leur ego, de ce qu'on appelle les maladies intérieures, qu'ils purifient ce cœur de ces maladies intérieures, de l'orgueil, l'ostentation, etc. Alors, revenons maintenant sur Terre, comme dirait Madame, donc, pour répondre à ces questions. Pour revenir sur Terre, évidemment, ce récit implique d'abord la notion de fraternité, de partage, de charité, de générosité. Pourquoi ? Parce que cette fête du sacrifice chez nous, en tout cas musulmans, elle est encore commémorée chaque année. Au-delà du sacrifice de ce bélier, de ce pauvre mouton, il y a ce partage avec les pauvres, avec les voisins. C'est une espèce de charité, c'est pas seulement dans ces trois jours, mais au-delà, mais c'est encore plus par rapport à cette fête du sacrifice, en partage avec l'autre, quel que soit cet autre. On essaie aussi de vivre cette fraternité humaine, et ma foi, cette fraternité humaine ne doit pas se limiter à ces trois jours de fête. Ces trois jours de fête sont un tremplin pour qu'on puisse vivre cette fraternité pendant toute une vie, avec notre prochain, quelle que soit la divergence ou la différence qu'il y a entre lui et moi. Et donc, cet islam qui nous a été proposé, qui nous a été révélé, n'est pas l'islam de la rupture, mais l'islam du partage, de la fraternité, de l'amour et du détachement, justement, des biens matériels, pour qu'on puisse vivre tous en un. Et c'est ça aussi le sens même du sacrifice qui est perpétué par cette fête, qui est une fête, hein, je le signale, ce n'est plus un drame, c'est une fête, symbolisé par ce sacrifice abrahamique qui est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Et le sens profond, le sens terre-à-terre, entre guillemets, c'est de vivre cette fraternité humaine dans la solidarité, dans la générosité, quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos différences. Et évidemment, c'est la négation de la rupture. C'est tout sauf la rupture et vivre en un. J'insiste bien sur le mot un, puisque quand on arrive à cette élévation spirituelle, on ne voit ces serviteurs du un comme étant un, que comme étant un. Et donc, on ne saurait voir la pluralité que dans la richesse. Et comme dirait un de mes maîtres à ce sujet-là, certes, les fleurs sont multiples, mais l'eau est une. Ou l'inverse, l'eau est une, et les fleurs sont multiples. Et vous voyez bien qu'on parle de fleurs. Donc, c'est de cette diversité que s'enrichit le monde ou les mondes. Et il ne faut pas voir dans cette diversité une rupture ou une espèce d'opposition, mais ce sont des fleurs d'une même eau. Donc, l'eau, c'est la vie, c'est Dieu, c'est voilà, tout ce qu'on peut symboliser comme, comme source de vie. Représente cette eau, et nous sommes évidemment censés évoluer à la lumière de ce sacrifice abrahamique, c'est-à-dire sacrifier nos appétits personnels, nos soifs de pouvoir, notre ego, pour qu'on puisse être ce un. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais bon, voilà, c'est le message.
Si, je comprends très très bien. Mais moi, je n'ai pas du tout le goût du sacrifice, donc c'est pour ça que vos récits me heurtent beaucoup.
Ben écoutez, on est tous dans ce travail sur nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle en islam le grand jihad, pour arriver justement à parfois sacrifier nos appétits personnels pour essayer d'aider l'autre, pour voir aussi l'autre et ne pas être embrylien, entre guillemets, voilà, et individualiste.
Sans être égotique, on n'est pas obligé de se sacrifier pour venir en aide à l'autre. Ça peut se faire aussi de façon tout à fait spontanée, et l'amour peut être un tremplin fantastique, mais bon, c'est un autre sujet.
Tout à fait. Moi, ce que j'insinuais par le sacrifice ici, c'est que parfois les gens, entre guillemets, faisaient prévaloir l'intérêt personnel sur l'intérêt collectif, leur propre confort sur parfois une question de vie ou de mort pour l'autre. Et ça, on le voit de façon très forte parfois dans le comportement de nos sociétés occidentales avec le monde pauvre, avec les misères du monde, etc. Et donc, évidemment, ce n'est pas avec des paroles qu'on va le résoudre.
Eric, tu souhaitais...
Oui, je souhaitais essayer de répondre à la question de Madame la députée en disant que la lecture de ce texte est une épreuve aussi. Et j'entends bien ce que vous dites en disant « mais moi, je n'ai pas envie de sacrifice ». Enfin, voilà, moi non plus. Je suis ordinairement voilà, paresseux, j'allais dire. Et ce n'est pas ça le problème. Je voudrais insister sur l'importance de ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, l'importance de ce qu'ont été pour moi, ça fait, je crois, cinq fois maintenant que je fais cette soirée. J'ai eu la chance au Centre Elie Wiesel, qui est donc un centre de la communauté juive, de pouvoir donner des cours à deux voix avec le grand rabbin Gilles Bernheim. L'importance que ça a de pouvoir enseigner sous le regard de quelqu'un qui ne partage pas sa foi. J'ai appris beaucoup de ma propre foi à devoir l'expliciter à des gens, des docteurs dans leur tradition, Georges Eliard, Tariq, d'autres. C'est là, pour le coup, c'est une véritable assaise d'essayer de rendre compte de sa démarche à partir d'un même texte, de rendre compte de sa démarche de lecture qui puisse à la fois se distinguer, parce que si elle ne se distingue pas, c'est qu'il n'y a pas trop de tradition, et qui en même temps puisse ne pas faire violence à la tradition de l'autre. Et je crois que ce soir nous y sommes arrivés encore une fois, mais c'est jamais gagné en fait. Même si de temps en temps on pourrait se dire, j'aurais pu dire à Georges Eliard, mais pourquoi t'as pas dit que le verset 2 il peut se traduire différemment, et voilà, on commence un peu à connaître des choses, voilà, mais on ne sait jamais si on va y arriver. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être travaillé. Les gens nous croient quand on est capable de dire notre foi devant ceux qui ne la partagent pas.
Georges Eliard, vas-y. Hein.
Oui, volontiers, merci beaucoup. Oui, je voudrais faire écho à ce qui vient d'être dit, et aussi c'est une façon de répondre à la question de Florence Provendier. Je crois que ce qui est très important, c'est que là, nous avons chacun parlé, chacun d'entre nous a parlé à partir d'un cadre traditionnel qui était le sien. Et ce qui se dégage de ces propos, à mon sens, c'est moins les spécificités dites religieuses que la communauté de vue sur le plan spirituel. Ça, c'est extrêmement intéressant, et c'est quelque chose qui, s'il y a un message sociopolitique à faire passer, c'est cela. C'est qu'il peut y avoir des religions différentes, mais ces religions différentes ont une sagesse commune. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous vivons dans une société ouverte. Et cette société ouverte, il faut la défendre parce qu'elle est la condition du débat libre et la condition de la non-violence. Le troisième point, c'est qu'une société ouverte qui tient à sa laïcité a intérêt à la défendre. Et la meilleure manière de défendre la laïcité, ce n'est pas de refouler l'archive des sagesses les plus anciennes, mais de la faire connaître par l'instruction publique. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que la crise que nous traversons depuis des années, sinon des décennies, est consécutive à ce refoulement qui, finalement, suscite ce qu'on appelle en psychanalyse, et je suis psychanalyste, des retours du refoulé d'une extrême violence. Ces retours du refoulé d'une extrême violence sont consécutifs aux préjugés entretenus par l'ignorance. La meilleure chose que la République française aurait à faire, comme toutes les républiques parlementaires du monde dignes de ce nom, serait d'enseigner les trois contenu de ces trois religions, parce que les citoyens de nos pays appartiennent à ces trois traditions, et que si nous voulons un creuset citoyen unique qui tende vers une compréhension mutuelle sans partage, fondée sur la fraternité et l'égalité, de manière à aussi revaloriser à notre époque la devise républicaine, il est indispensable d'instruire les jeunes gens et qu'ils cessent de se percevoir à travers des prismes qui sont ceux du préjugé. Et je pense qu'une des raisons de l'effondrement de la République et de son école depuis des décennies, et je suis prof d'université, je me suis éloigné de l'université à cause de l'affreux climat idéologique qui y règne consécutivement à cette éradication des connaissances, eh bien, c'est de réhabiliter le savoir dans toute son entièreté. Et je rappelle enfin qu'il y a eu un grand roi en France qui était François Ier et qui a fondé le Collège de France. À la Renaissance, le Collège de France avait pour vocation d'instruire non seulement les meilleurs d'entre les sujets du roi, mais encore les meilleurs d'entre les Européens, de toutes les traditions qui étaient à l'origine de la civilisation occidentale. François Ier avait ouvert une chaire d'hébreu, une chaire d'arabe, une chaire de grec, une chaire de latin, parce que ce sont les assises de la civilisation. Et je pense que la République, dans cette période de crise, doit donner la plus grande priorité à l'éducation nationale, et qu'une véritable éducation nationale n'est pas forcément et seulement au service de l'économie, avec les misères que l'on voit, mais au service de la formation de la personne. Et la formation de la personne, c'est le modèle de la Renaissance. Et aujourd'hui, nous sommes dans les conditions de pouvoir vivre une nouvelle Renaissance grâce, effectivement, à la diversité culturelle qui caractérise notre pays. Et j'insiste beaucoup en tant qu'enseignant sur l'importance de reformuler des messages qui nous viennent de très loin et qui ont été trop longtemps refoulés et qui, de ce fait, ont fait naître des préjugés d'une extrême violence.
Des préjugés, puis des régressions, enfin forcément, c'est des chemins parcourus.
Ça va de pair. On est atterré par le degré de désymbolisation de contemporains.
Justement, Georgina, je te donne la parole tout de suite, Émile. Je vais te donner la parole tout de suite, mais j'aimerais bien justement que vous explicitiez un peu mieux ce que ça veut dire sacrifice, soumission, obéissance aujourd'hui. Comment on peut réinterpréter ces termes-là aujourd'hui? Parce que c'est vrai, c'est des termes violents qui sont datés et c'est né dans des époques où les sacrifices existaient réellement. Comment on le prend aujourd'hui? Émile, à toi la question, si tu veux. Ton micro est coupé, Émile. Émile, ton micro est coupé.
Là, ça va?
Voilà. C'est bon.
Je disais que je suis très ému de voir ce soir un monde de paix où les trois religions peuvent s'exprimer en toute liberté. Je partage le sentiment du professeur Sarfati concernant les universités quand je vois certains événements qui me choquent, qui me révoltent, et qu'il n'y a plus d'amour de son prochain. Parce que bon, il y a aussi l'amour de son « aime ton prochain comme toi-même », nous dit la Torah. Mais quand je vois certains... Aujourd'hui, en Belgique, j'ai vu encore beaucoup de choses. Et j'ai eu l'occasion d'en parler, d'en référer à deux personnes anciennement enseignants pour savoir tout ça. Malheureusement, il y a un problème de communication qui est très mal fait. Il y a un problème peut-être politico derrière qui est pris. Mais ce soir, ce que j'admire, c'est les trois religions représentées ici en toute simplicité, modestie, et que puisse chacun s'exprimer dans la liberté. C'est une grande joie et mon vœu le plus cher, c'est de voir cette création s'étendre dans beaucoup de domaines. Merci à vous trois. Merci beaucoup.
Merci bien.
Juste, si vous permettez, simplement pour vous abonder dans le même sens sur la question de l'enseignement, parce que c'est pour moi la vraie solution, c'est-à-dire malheureusement, ceux qui nous gouvernent ont longtemps réagi et surréagi sur au niveau des conséquences du problème, et ils n'ont pas voulu résoudre la source du problème. La source du problème, c'est justement l'ignorance de nos trois traditions respectives et au-delà. C'est-à-dire quand on prive notre jeunesse d'une lecture dépassionnée du fait religieux, eh bien, cette jeunesse ne peut pas rester sans savoir. Elle veut, entre guillemets, attiser sa soif, elle veut aller répondre à cette curiosité, et elle va où? Elle va dans les réseaux sociaux, chez Cher Google, Cher Facebook, etc., avec tout le mal que je vous laisse imaginer derrière ce virtuel, ces gourous qui se cachent derrière ce virtuel pour endoctriner nos jeunes, nos adolescents qui sont encore très fragiles, qui n'ont pas encore toute la capacité de discernement. Et je pense que remettre l'enseignement du fait religieux de façon dépassionnée dans nos écoles et dans nos universités serait une façon de résoudre le problème à la source. Pour une simple raison, c'est que le proverbe nous dit, on est l'ennemi de ce qu'on ignore. Si on veut vraiment entre guillemets, une harmonie, une paix durable dans notre société plurielle, il faut passer par ça, par l'enseignement, par l'information, par le fait de présenter de façon neutre, dépassionnée et surtout correcte et authentique nos traditions qui nous ont forgées, qui font partie de notre ADN, de notre histoire, de notre culture. Voilà. Et ça, je pense, à mon avis, c'est un message très fort du sacrifice que nous devons tous faire au plus haut niveau de l'État pour permettre justement, je ne vais pas dire une entorse à la laïcité, parce que la laïcité n'interdit pas cela. Moi, j'ai enseigné le fait religieux dans des universités, ça n'a posé de problème à personne, et même à l'éducation nationale. Simplement, il y a une manière de le faire qui est évidemment scientifique, dépassionnée, neutre. Et donc, il faut que nos politiciens sacrifient un petit peu leur ego et leur, entre guillemets, bannière politique pour un intérêt plus global qui est celui de nos enfants, pour qu'on puisse prévenir ce mal moderne qui est le terrorisme. Grâce à quoi? Grâce au fait de vacciner nos enfants contre ce virus, non pas du coronavirus, ce virus qui est beaucoup plus, à mon avis, subtil et beaucoup plus dangereux que le coronavirus, qui est le terrorisme belliqueux, l'extrémisme, parce que l'extrémisme, il est l'enfant illégal, illégitime de cette ignorance, de ce refoulement dont vous avez parlé tout à l'heure, et je souscris parfaitement. Le religieux a longtemps été refoulé, surtout dans notre grand pays, alors qu'on ne mérite pas ça. On est le pays des Lumières et on a envie que ces lumières-là rejaillissent également sur l'enseignement de nos traditions respectives, de façon, encore une fois, je le répéterai jamais assez, dépassionnée, neutre et authentique.
Comment tu actualises? On va pas trop...
Ah oui, voilà. Et l'actualisation pour moi de ce fameux sacrifice, c'est ça, c'est que chacun de nous, il n'y a pas de violence dans ce récit du sacrifice contextualisé. C'est surtout le fait de considérer ces valeurs-là qui sont, entre guillemets, induites par ce récit, qui sont la valeur de la fraternité, la valeur de l'abnégation, la valeur de ce grand jihad, de ce travail sur nous-mêmes pour reconnaître l'autre nous-mêmes et pour n'en faire qu'un et être solidaire, surtout dans cette crise qui nous a montré la grande importance justement de cette solidarité, de ce destin commun finalement. On croyait que chacun vivait son propre destin, mais finalement c'est un destin commun, on est dans un même bateau. Et derrière ce sacrifice abrahamique, derrière cette fête entre guillemets du sacrifice, il y a cet aspect de partage, cet aspect de générosité, cet aspect d'amour, indépendamment de ce qu'on peut être finalement, d'acceptation, et au-delà même de la tolérance, le fait d'avoir ce qu'on appelle l'altruisme, qui est une valeur incarnée par Abraham, puisqu'il a été jusqu'à, entre guillemets, dépasser ses propres intérêts, sa propre entre guillemets, attache. Et c'est ça aussi qui est aujourd'hui à revisiter à la lumière de nos sociétés post-Covid, pour pouvoir faire triompher, à mon sens, ce qui est humain en nous sur ce qui est économique, sur ce qui est intérêt terrestre, intérêt matériel.
Merci, Tariq. Merci beaucoup. Très bien.